Le Rendez-vous Tech est entièrement financé par ses auditeurs. Ce sont eux qui rendent l'émission possible et pas des sponsors ou des annonceurs ou des sociétés tierces. Aujourd'hui, je remercie tout particulièrement Bruno Autret, Christophe Donatch, François Ribollet, Pierre-Yves Sourisseau, Marc D, Jean Delastre, Alexandre Chonsen, Broco, Sebos et Mais c'est super ! Et je suis tout à fait d'accord avec ce dernier nom d'ailleurs. Si vous aussi vous voulez soutenir l'émission, rendez-vous sur patreon.com/rdvtech. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadgets. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission qui vous résume dans la bonne humeur toute l'actualité tech, internet et gadgets. On vous parle de tout ce qui a fait les news et les gros titres pendant cette dernière semaine et on vous résume ça en analysant un petit peu, en essayant de vous faire, de vous permettre de comprendre tout ce qui se passe dans le monde de la tech, dans tous les aspects du monde de la tech, et on y ajoute un minimum d'humour, parfois de qualité discutable, mais au moins on essaye, donc on doit quand même avoir un petit peu de qualité d'effort, on va dire. Je suis Patrick Béja et aujourd'hui, nous sommes en pleine semaine du 8 mai et en plein pont. Donc, il y en a qui sont
raté
en
du
vacances. Qu'est-ce que j'ai dit ? 8 mai,
pas
je pense déjà
mai,
la semaine prochaine. Oui, c'est ça. Mais le 1er mai, c'est pareil, il y a un pont. Et il y a d'un côté les feignants qui sont pas là, les Jérôme, les Corben, tout ça, qui estiment qu'ils ont mieux à faire que de venir parler tech avec nous. Et de l'autre, les courageux, ou plutôt devrais-je dire le courageux, c'est-à-dire Cédric, fidèle au poste, qui est là et qui va nous permettre de faire une émission d'immense qualité, puisqu'on ne sera pas, comment dire, tiré vers le bas par les autres membres de cette équipe. Comment ça
va,
Cédric ?
C'est ça, mais complètement. Écoute, ça va très bien. Tout va bien, la vie est belle, il fait pas beau, mais peut-être que demain il le fera, et
espérons.
C'est ça l'essentiel. C'est ça. J'ai la pelouse à tondre, donc du coup j'espère qu'il va faire beau.
Bah écoute, ici, étrangement, il fait pas trop moche. On n'est pas juste à côté, mais ici, il fait beau, donc au moins, on a 50% de beau temps dans l'émission.
C'est ça.
On peut pas trop se plaindre. Bon, non. On a plein de choses dont on va vous parler aujourd'hui. On a plein de sujets intéressants sur Amazon, avec des robots Amazon qui sont en train d'être conçus. On vous disait qu'Amazon est l'une des sociétés les plus puissantes du monde. Et ben là, ça commence à se confirmer de plus en plus. On va aussi vous parler de casques de réalité virtuelle, de mise à jour Windows, de Huawei et Xiaomi qui font des choses et qui arrivent en France. On a plein d'autres choses, TF1 et Free qui se serrent la main tout à coup, de l'ADN, une histoire hyper intéressante sur un tueur qui a été retrouvé grâce à une base de données publique d'ADN, enfin plein de choses hyper intéressantes. Et commençons donc par le robot Amazon qui est, alors c'est une rumeur hein, bien sûr, mais c'est une rumeur qui vient du très sérieux journal site Bloomberg et qui vient de Mark Gurman, qui est, disons, l'une des sources les plus fiables de la tech aujourd'hui, plus particulièrement chez Apple, mais dans la tech en général. Et donc, cette rumeur dit que Amazon est en train de travailler sur un robot qui s'appellerait, le nom de code, c'est Vesta, et qui serait donc un robot basé sur Alexa ou sur l'Amazon Echo. On ne sait pas exactement ce qu'il ferait, mais c'est un projet de recherche qui verra peut-être jamais le jour. Hein. On sait qu'Amazon a eu des succès parfois limités dans ses recherches de matériel. Alors, ils ont eu le Kindle qui marche très bien. Bien sûr, le Echo qui marche très, très bien. Ils
on ont parlera les pas Amazon... du Fire Phone, c'est ça, en fait.
Exactement. Voilà, c'est celui auquel j'allais faire référence, le Fire Phone. Il y a le stick qui marche, bon, on va dire pas trop mal, mais enfin, c'est pas non plus le succès fou. Il y a les boutons, tu sais, Amazon, les Dash.
Les Dash, ouais.
Ouais, qui sont aussi... Mais donc, venons-en à ce robot Vesta Alexa, pour lequel d'ailleurs j'ai fait une illustration, j'ai préparé à l'avance, une illustration qui sera l'illustration de l'épisode. J'espère que vous regarderez ça parce que c'est une illustration magnifique qui m'a inspiré également le titre de l'épisode qui serait « Est-ce que ce robot serait Alexa sur roulette ?» Et donc, vous verrez l'illustration,
oh
elle est magnifique.
La.
et donc, oh. Je me tourne vers Cédric, un robot ouais. Amazon.
Ah ben j'en ai parlé jeudi dernier, moi, dans Things, tu sais, j'en profite, je fais ma pub au passage.
Mais vas-y, je t'en prie.
Mon émission du jeudi midi où je parle d'Internet des objets, de manière générale, que ce soit pour la santé ou la maison.
Justement que toi, t'es très fan de l'Internet
des objets.
Ouais,
je suis très fan de ça. Et alors, ça me fait penser à Kicker. Corben en parle pas mal de Kicker, parce que je crois qu'il en a un, ou il en teste un, ou il va en tester un, je sais plus, qui est un robot domestique français aussi, un petit assistant comme ça qui te suit et qui peut te projeter des choses au mur, qui peut faire pas mal de choses, mais qui, bon, de ce que j'en ai vu, entendu, dispose pas de l'aspect assistant poussé comme Alexa. Du coup, ça limite un peu, je trouve, l'usage, il faut trouver un usage. Et nous, le bilan qu'on a fait dans Things avec la chatroom, puisqu'ils étaient une soixantaine, c'est bah, il reste plus qu'à trouver un usage à ça, parce que c'est ok, ça, l'idée problème, est pas mauvaise, mais qu'est-ce que ça, enfin, ça me coûterait peut-être moins cher de mettre un Amazon Dot dans chaque pièce, comme là j'ai un Google Home dans mon bureau, j'en ai un dans ma cuisine, et de lui parler. À quoi ça me sert que l'assistant me suive, en fait, ou
c'est, parce que c'est comme ça qu'il a été décrit. Il a été décrit comme un Amazon Echo, donc Alexa qui vous suit. J'imagine qu'il fera sans doute un petit peu plus que ça. Entre parenthèses, Alexa sera, enfin, l'Amazon Echo sera disponible en France finalement le 23 mai, je crois. La sortie a été un petit peu repoussée. Voilà, c'est le 23 mai.
Alors, moi, de ce que j'avais lu, le robot serait déjà en test là, courant 2018, chez des employés Amazon. Et je pense qu'en fait, c'est un test grandeur nature pour vérifier les usages et voir si le produit vaut le coup d'être commercialisé.
Il semblerait, oui. Et effectivement, la sortie serait prévue pour dans pas trop trop longtemps.
2019, et il parle.
Moi, franchement, je suis un petit peu sceptique, parce que j'ai pas l'impression qu'on ait fait des avancées dans la robotique folle, de manière à ce que ce type d'objet puisse être intéressant. Mais peut-être que allié à d'autres matériels, imaginons par exemple qu'il ait une webcam qui puisse observer ce qui se passe
faire de la
autour de lui.
Surveillance.
Mais même pas ça.
Serait pas mal. T'es pas chez toi. Enfin.
Oui, c'est vrai. Mais ça, tu peux placer
des
caméras.
Alors, moi, de ce que j'avais lu, justement, c'est que le robot se déplace grâce à toute une ribambelle de caméras. Un peu comme les Tesla aujourd'hui et leur autopilote qui s'y critiquaient. Mais là, l'idée, c'est que le robot se déplacerait grâce à un gros système de caméras et capable de reconnaître les surfaces et tout ça. Et donc, du coup, ce que tu disais, la présence de caméras, ça serait plus qu'avéré.
C'est acquis, oui.
C'est le système.
Sûr, oui.
C'est le système de navigation de l'appareil.
Mais ce que je veux dire, c'est que si elle peut voir ce que tu es en train de faire, cette caméra, du coup, peut-être que ça ajouterait une dimension visuelle aux échos et à l'assistant Alexa, qui pourrait du coup... Parce que souvenons-nous qu'au lancement de l'Amazon Echo, c'était une sorte de pari un petit peu fou. Quand je dis un petit peu fou, c'est qu'il n'avait pas trop de sens, en fait. On ne savait pas très bien à quoi ça servirait. Et il se trouve qu'ils ont connu le succès et que les gens l'utilisent beaucoup et l'apprécient particulièrement.
Ouais, ne serait-ce que comme enceinte, où tu demandes de jouer de la musique, il lit de...
Par exemple,
il lit ta musique et ce genre de trucs. Enfin,
mais il y a plein de choses qu'il fait.
Bien sûr.
Tu peux vraiment lui
non, commander
plein de choses.
Tu peux commander ta pizza, tu peux faire plein de trucs...
Mais du coup, tu vois, lui ajouter la vision, ça pourrait avoir des conséquences, alors intéressantes et inquiétantes, mais en tout cas des choses qu'on n'imaginerait pas forcément tout de suite, parce que c'est pas juste que tu as tout à coup un Alexa sur roulette, mais tu as aussi un Echo qui a des yeux. Et là, tout à coup, ça rajoute tout un tas de possibilités. Donc je me demande si c'est pas un petit peu ça qu'Amazon vise,
ouais,
et donc
ça pourrait servir pour plein de choses. Si tu vois une personne, enfin, on a parlé beaucoup d'accessibilité, par exemple, et de personnes âgées. Dans Things, on en parle assez souvent parce que la domotique, mine de rien, c'est un moyen pour eux de récupérer de l'autonomie.
Un petit peu d'autonomie, oui, bien sûr.
Oui, un petit peu, même beaucoup, hein, pour des gens qui, par exemple, sont tétraplégiques, le fait d'utiliser la voix pour fermer ses volets, pour allumer sa lumière et tout ça, enfin, je veux dire, c'est pas rien, quoi.
Bien sûr.
Mais par exemple, pour les personnes âgées, en cas de chute, par exemple, alors il y a tout un système maintenant qui existe avec des boutons, des machins, des trucs comme ça, mais le robot serait capable, pourquoi pas, vu qu'il a la vue, de voir qu'une personne est étendue par terre et déclencher, enfin, et appeler les secours ou déclencher un truc, tu vois.
Donc ouais, non, mais c'est ça, ça ouvre tout un tas de possibilités.
Pour la sécurité, en tout cas, c'est vrai que ça peut être sympa. Après, encore une fois, j'aimerais bien connaître les usages. Après, s'il est capable d'ouvrir le frigo et de me ramener une bière, j'achète tout de suite. Mais je sais pas s'il sera capable de faire ça, tu vois.
Ben non, mais enfin, ceci dit, pourquoi pas.
Si un frigo embarqué à l'intérieur, c'est pas mal, hein, que le frigo te suive tout le temps.
Non, mais là, tu vois, pour ouvrir le frigo, il faudrait qu'il ait des bras articulés et tout ça, ça devient beaucoup plus. Mais je crois que le fait d'avoir une caméra sur un appareil qui se déplace est beaucoup plus intéressant que d'avoir simplement une webcam sur un Echo, sur un Amazon Echo ou un autre assistant statique. Et c'est là que ça pourrait devenir quelque chose de vraiment intéressant. Mais bon, à voir ce que ça va donner. Une autre.
Ça fait tellement penser à Star Wars, tu sais, tous les petits robots qui grouillent dans tous les sens. On ne sait jamais à quoi ils servent.
Ouais, si t'as, si t'as un Vesta et un. Comment ils s'appellent? Les Roomba.
Mais j'ai un Roomba, moi. J'ai un Roomba 960.
Voilà, tu pourras tester. Mais c'est intéressant parce que c'est cette idée que Amazon essaye des trucs et parfois ça marche, parfois ça marche pas, mais c'est souvent des trucs qui sont un petit peu, comment dire, un petit peu fantaisistes. Et là, on a vraiment, on arrive, je pense, au début, on n'y est pas encore, mais on arrive au début d'un moment où l'ensemble des technologies d'intelligence artificielle, de mobilité, etc., convergent exactement. Et pourrait donner des petits robots qui vont pas, encore une fois, ça va pas être des robots comme on peut les imaginer dans la science-fiction de notre jeunesse, mais par contre des petits robots qui pourraient rendre des services limités, mais ça serait déjà quelque chose de fonctionnel. Et c'est vraiment en raison de cette convergence de ces technologies d'intelligence artificielle, de machine learning, de connexion permanente, qui fait que ça pourrait peut-être faire des actions mécaniques, mais je dis mécanique logique, quoi.
Oui, enfin, tout à fait.
Donc, voilà pour le Vesta. Il y a aussi une autre initiative un petit peu plus terre-à-terre, mais hyper intéressante, qui là encore, à mon sens, témoigne de cette capacité qu'a Amazon à tenter des choses intéressantes. C'est un partenariat qu'ils sont en train d'établir avec GM, General Motors et Volvo, pour proposer la livraison dans la voiture. C'est une idée qui est hyper brillante quand on y pense, mais il faut y penser. C'est-à-dire qu'ils ont les systèmes OnStar, etc., de contrôle à distance de la voiture pour le dépannage et pour, en cas d'accident ou de ce genre de choses, pour assister les gens dans les voitures. Donc, ça existe depuis très longtemps. Hein. C'est des systèmes qui vous permettent d'avoir un opérateur loin de la voiture qui va ouvrir les portes, ouvrir le coffre, etc. Et en l'occurrence, Amazon fait un partenariat avec eux pour que les livraisons Prime soient livrées dans le coffre de votre voiture. Il suffit que la voiture soit garée à, je crois, une centaine de mètres de votre domicile ou de votre bureau. Et vous donnez la plaque d'immatriculation de la voiture, vous dites où elle est, et du coup, c'est simplement livré. Au lieu d'être livré dans un point de livraison ou dans une maison, c'est livré dans le coffre de la voiture. On se souvient, on a beaucoup parlé dans cette émission de la livraison dans la maison, où on ouvre un petit peu la porte, et puis on laisse à l'intérieur, et puis on ferme la porte. Enfin, c'est le livreur qui ferait ça. Là, c'est une version beaucoup plus sécurisée, beaucoup plus sécurisante, de ce type de livraison. Moi, je trouve ça assez, même hyper intéressant, quoi.
En vrai, c'est pas vraiment nouveau, parce que je crois qu'ils avaient déjà fait un test l'année dernière avec je sais plus quelle marque.
Écoute, j'avais pas vu ça passer, mais là, c'est étendu à 37 villes, en tout cas. C'est uniquement pour
les abonnés Prime. Ouais, voilà, mais là, c'était que dans une ville, effectivement, et c'était qu'avec, je me souviens, c'était pas des Mercedes.
D'accord.
Donc ça limitait le truc, mais maintenant effectivement ouais, ils l'ont étendu. Moi je trouve que c'est une bonne idée, hein. Dans les faits, comme tu dis, c'est plus safe de se dire ok, je préfère ouvrir le coffre de ma bagnole
que la
porte de ma maison, quoi, en fait. Il suffit de savoir que t'as un livreur qui va déposer les trucs, du coup tu laisses pas d'objets de valeur dans ta voiture. Et puis c'est réglé.
Même juste
quoi.
Dans le coffre. Enfin, à moins d'avoir 5 portes.
Bon, après, il y a un risque que le mec parte avec ta voiture. Mais ça, c'est autre chose.
Bon, disons que si ça n'ouvre que le coffre, si t'as une 5 portes à la millimètre, il peut se glisser dans la voiture. Mais enfin.
Si c'est un hayon derrière, oui.
C'est vraiment, vraiment. Bon, disons que c'est pas un danger.
Non, c'est.
Qui est vraiment une préoccupation.
Dans une moindre mesure, oui, exactement. Ouais. Après, il y a le risque aussi que ton colis rentre pas dans ton coffre, mais ça.
Ouais. Mais tu sais, ça peut être des livres pour tout type de colis
et
même des petits, quoi.
Complètement. Et d'ailleurs, il faudra faire attention à ne pas se faire livrer du Amazon Fresh dans le coffre de la voiture en plein été. Hein. Mais sinon, pour tout le reste.
À part ça, ouais.
Mais sincèrement, je trouve l'idée top, quoi.
Ouais. C'est vraiment ce genre de truc auquel on ne pense pas forcément. Et puis, quand c'est disponible, je trouve qu'ils sont vraiment les génies de ce genre de truc, Amazon, c'est...
Ah ben, de toute façon, voilà.
C'est le fait de trouver les trucs dont on ne savait pas qu'on avait besoin.
Ouais.
Ils font ça avec les... Je ne sais pas comment dire ça. Les designers de logiciels font souvent ça. On sait qu'Apple se targue de le faire très, très souvent. Mais Amazon, ils le font avec, je ne sais pas comment dire ça, des processus ou de la logistique, en fait.
Oui, c'est ça. C'est devenu des spécialistes... Enfin, honnêtement, c'est des spécialistes mondiaux de la logistique.
C'est ça.
Ces gens-là. Et quand on voit que les gens qui habitent pas loin des entrepôts sont livrés dans la journée même, c'est limite les employés d'Amazon qui, quand ils partent du boulot, viennent te livrer chez toi, quoi, tu vois. Non, mais c'est vrai. T'as une pause à midi, bah, tu pars 10 minutes avant et tu déposes le colis à machin qui habite à deux rues. Et ouais, t'as le colis que t'as commandé 2 heures avant, quoi. Non, mais c'est vrai, en plus.
Non, mais il y a la livraison. Bon, c'est pas les employés d'Amazon qui font
non,
ça pendant la pause de midi.
Bien, mais...
Même si les conditions de travail chez Amazon continuent à être critiquées vivement et sans doute avec justesse.
Avec raison, oui.
Mais avec raison, mais effectivement, il y a la livraison en 1 heure ou la livraison en 2 heures qui est un truc qu'ils proposent maintenant dans certaines agglomérations. Et à Paris, c'est la livraison dans la journée, quoi, qui est possible. Et ça fait un moment. Et d'ailleurs, ils continuent à grossir. Ils ont aujourd'hui 100 millions d'abonnés Amazon Prime. Je crois qu'on en avait parlé à l'épisode précédent. 100 millions, c'est quand même hyper impressionnant. Et ben, ils en profitent justement pour augmenter un petit peu le prix d'Amazon Prime aux États-Unis, en tout cas. Ça passe de $99 à $119 pour l'abonnement annuel. Ils avaient déjà un peu augmenté, si je ne m'abuse, l'abonnement mensuel il n'y a pas longtemps. Le truc, c'est que c'est encore une fois un truc... Amazon Prime, c'est un truc dont on se dit qu'on n'en a rien à faire avant de l'avoir essayé. Mais une fois qu'on l'a essayé, on se rend compte qu'on ne se rendait pas compte qu'on en avait vraiment besoin, ou en tout cas qu'on le voulait. Et moi, je suis convaincu que même s'ils augmentent le prix en France aussi... Ça serait une question intéressante d'ailleurs. J'entends « Oh non, ça veut dire que tu resterais abonné de toute façon. »
Évidemment.
Enfin, jusqu'à quel prix tu serais prêt à payer par an pour rester abonné à Amazon Prime ? Ça serait une question intéressante.
Bah après, moi, je t'avoue que je regarde aussi...
Tous les autres trucs que ça.
The Grand Tour sur Amazon Prime. Enfin, tu vois,
En vidéo, tu veux dire.
Ouais, en vidéo. J'utilise aussi le Prime pour Twitch. Donc tu vois, rien que ces deux trucs là me font en gros une économie de 15 € par mois, parce que je consomme des vidéos sur Amazon Prime. Il n'y a pas beaucoup de trucs qui m'intéressent, mais il y en a quand même quelques-uns, et je trouve que c'est quasiment suffisant pour que je prenne un abonnement.
Il y en a juste assez pour que tu dises ouais, bon, je vais le garder, quoi.
Ouais, c'est ça. Et ouais, exactement. Et ensuite, y a tout le Twitch Prime qui est dedans, et mine de rien, ça permet d'économiser 5 € par mois d'abonnement Twitch, parce que j'étais sub à des chaînes, donc du coup, voilà, j'ai 5 € d'économie sur ça. Et puis, je commande énormément sur Amazon, donc, je veux dire, je pense que je rentabilise le forfait très vite, et allez, jusqu'à... Je pense que je serais prêt à mettre jusqu'à 100 € par an...
De
Prime.
Donc 200 € de Prime, ça te ferait pas peur,
non,
quoi. C'est fou,
non, ça me ferait pas peur. Qu'en gros, ça revient à un peu moins de 20 € par mois pour un service qui est
très vaste, ouais. C'est vrai que je crois qu'à partir de 180-200, je commencerai à me poser la question, mais oui, je crois que je continuerai. Bon, il se trouve qu'ici, dans ma campagne maintenant, Amazon Prime ne me sert pas à grand-chose, mais il est à une centaine d'euros à peu près, je continue à le garder pour Twitch et pour... qui d'ailleurs donne des jeux aussi maintenant, chaque mois. Donc pour Twitch
Un truc qui serait intéressant, peut-être à double tranchant, en fait. Mais... il y a un truc intéressant qu'a fait Cdiscount, qui est aussi un espèce de Amazon Prime, mais de Cdiscount, quoi. Qui en fait te dit combien tu as économisé en frais de livraison depuis que tu as le forfait. Et c'est pas mal. Alors moi, j'ai eu de la chance, parce que comme j'ai commandé un four et deux conneries sur Cdiscount, ils m'ont offert pendant un an le service. Le Cdiscount à volonté, ça s'appelle, je crois, un truc comme ça. Et attends, je vais essayer d'aller voir.
Oui, enfin, on comprend, peu importe.
Voilà, là, il me fait, voilà, bienvenue Cédric, vous cumulez déjà 120,95 € d'économie grâce à vos remises. Enfin, voilà.
Ouais, bah, c'est sûr que sur les livraisons, quand on commande régulièrement
quand tu
sur Amazon...
Un machin, les livraisons sont ultra chères en général, en plus. Donc, c'est ultra rentable, quoi.
Ouais. Bah, sur Amazon, c'est la fréquence des trucs et justement que tu te mets à commander pour des petits trucs que tu n'aurais pas forcément commandé s'il y avait le prix
clair.
De la livraison.
Mais je trouverais ça vachement malin de la part d'Amazon de dire combien on a économisé, quoi. Mmh.
Peut-être que ça ferait peur à certaines personnes aussi. Mais il y a un autre service encore qui va nous amener à l'éternelle conversation sur la taille d'Amazon, mais Amazon Web Services, donc le mastodonte du service d'hébergement de données de sites web et de serveurs, qui se met à la blockchain. Ils vont commencer un service de blockchain as a service, en fait, ce qui veut dire deux choses, parce que en fait, ils avaient parlé de la blockchain chez Amazon il y a un moment et ils avaient dit non, mais blockchain, on s'en fout, c'est pas pour nous. Et du coup, ça montre la force et l'intérêt des entreprises pour la blockchain, puisque finalement, Amazon s'y est mis aussi. Donc, vous pourrez facilement héberger des services de blockchain. Je crois qu'ils font du Ethereum et du Hyperledger ou ce genre de choses. Enfin, il y a quelques
Ethereum
types. Je crois que c'est Hyperledger. Hyperledger Fabric, c'est voilà ce que dit l'article de l'informaticien que je consulte. Donc ils s'y mettent également, et du coup évidemment, enfin, on finit par en parler maintenant presque à chaque épisode, alors que je dirais il y a 2 ans on les avait même pas vraiment vu venir de cette manière. C'est la taille d'Amazon qui devient tellement monstrueuse qu'on peut plus s'en passer dans tellement de domaines. Je crois qu'on arrive, on en parle souvent pour Google, pour Facebook.
Facebook en particulier. Mais, enfin là le.
Et je veux dire, on parle de l'idée de les diviser en plusieurs sociétés, de casser les monopoles. Pour Facebook, ça serait pas compliqué parce qu'il faudrait faire Instagram d'un côté, WhatsApp de l'autre, Facebook du dernier et Messenger peut-être. Google, on aurait aussi une grande facilité à les séparer en plusieurs sociétés. Et Amazon, je crois, même les supplante tous dans cette discussion, plus particulièrement aux États-Unis, mais quand même un petit peu ailleurs aussi. Ils font une telle taille et ils ont tellement les tentacules partout.
En fait,
aujourd'hui,
c'est fou, hein, parce que Amazon, le seul endroit où ils ne réussissent pas, mais c'est vrai, hein, on en parlait tout à l'heure, c'est sur les devices, honnêtement.
Maintenant avec l'écho, ils ont
Kindle,
peut-être.
Ouais, mais sauf avec l'écho parce qu'ils avaient pris un temps d'avance. Mais il y a quand même, et aussi les services. Enfin, quand je parle de services, c'est tout ce qui est. On parlait tout à l'heure d'Amazon Prime Vidéo.
Vidéo, musique,
la musique et
non,
tout ça.
Non, mais tu sais, ils sont pas premiers, mais ils sont genre troisième ou quatrième sur tout.
Oui, c'est ça. Mais ce que je veux dire, c'est que s'ils avaient tu vois, par exemple, sur la musique, s'ils avaient la force d'un Spotify ou la force d'un Apple sur ça, ils seraient. Je sais pas. En plus,
sûr.
Le problème qu'il y a pour vraiment ces choses-là, y compris pour Amazon Prime Video, c'est la qualité du logiciel qui n'est vraiment pas bonne. Et tu te dis, ces gens qui ont tellement d'argent pourraient produire quelque chose de supérieur à Spotify ou à Apple Music, ne serait-ce qu'en recommandation. Enfin, rends-toi compte la quantité de données qu'ils ont sur les achats. Alors maintenant, personne ne doit acheter de CD sur Amazon.
Mais
ils ont déjà des moteurs de recommandation qui sont monstrueux, qu'ils pourraient très bien appliquer à ces plateformes-là. Et je sais pas, j'ai la sensation que c'est pas les mêmes. Enfin, oui, c'est pas les mêmes personnes, forcément.
Non, mais tu sais, ils ont pas besoin d'être les meilleurs, c'est ça qui est fou. C'est qu'ils sont les meilleurs sur la logistique, comme ils disaient. Sur le reste, ils ont pas besoin d'être les meilleurs.
Personne n'a installé Amazon Music sur son téléphone.
Peut-être certaines personnes, mais je veux dire, ils ont juste besoin d'être assez bons. Peut-être que la musique est particulièrement en retrait, c'est possible, mais ils ont juste besoin d'être assez bons pour que les gens se disent « Ouais, bon, comme je disais tout à l'heure, ouais, bon, je vais le garder, tu vois. » Et ils réussissent sur ça à être et à progresser petit à petit, lentement, à tel point que, comme on le disait sur le prix de Amazon Prime, ils pourraient augmenter le prix, et je suis sûr qu'il va continuer à augmenter dans les années à venir. Et ils n'ont pas de concurrence. On parlait de ces discounts à volonté. Si je ne m'abuse, il y a une offre chez la Fnac également. Mais là, on parle d'échelle nationale qui ont énormément de mal à rentrer en compétition avec la force de frappe de ces autres sociétés. Donc, Je ne sais pas. Et à la limite, je me demande même si on divisait Amazon en plusieurs sociétés, qu'il y ait Amazon Vidéo d'un côté, Amazon... Enfin, ils continueraient à avoir des accords, je pense, privilégiés. Je ne sais pas si... C'est très compliqué, et c'est la même chose finalement que pour Facebook et pour Google et pour tous les autres. On a ces inquiétudes sur leur taille qui sont légitimes, et en même temps, ils rendent tellement de services et ils sont tellement indispensables aujourd'hui à la manière dont fonctionne le monde qu'on se demande si on pourrait fonctionner autrement. Alors oui, on pourrait certainement fonctionner autrement, mais je ne sais pas. Amazon fait vraiment partie de ceux qui se sont insinués dans cette catégorie depuis longtemps, en fait, mais on s'en est rendu compte qu'il y a quelques années. Donc. Bon. Donc voilà notre grosse partie Amazon, comme toujours, des news intéressantes de leur côté. Continuons avec les news et rumeurs, mais avant de passer aux news et rumeurs, j'en profite pour remercier les auditeurs qui choisissent de soutenir l'émission. Vous le savez, l'émission n'existe que par la volonté des auditeurs. C'est vous qui décidez de financer l'émission, d'envoyer votre argent durement gagné. Alors vous choisissez sur patreon.com/rdvtech, le lien est dans les notes de l'émission. Vous choisissez combien d'argent vous donnez. Combien de temps vous donnez, en fait, vous pouvez vous arrêter quand vous voulez. Vous choisissez le nombre d'épisodes que vous voulez soutenir. Entre parenthèses, au mois de mai, donc cet épisode sera daté du 1er mai, et au mois de mai, il y aura du coup 5 lundis. Ça arrive une fois tous les quelques mois, enfin je crois deux fois par an à peu près. Donc n'oubliez pas, je le rappelle à chaque fois, mais je le rappelle encore une fois, vous pouvez limiter le nombre d'épisodes auxquels vous participez. Donc si vous voulez ne participer que pour 2, 3, 4 épisodes, et ben vous pouvez faire ça sur Patreon aussi. Vous choisissez la somme que vous donnez, etc., etc. C'est entièrement libre. Meilleur business model de l'histoire, et je pense que vous pourriez vous aussi en profiter en y prenant part et en soutenant l'émission, tout simplement, comme le font Augustin Descases, Marc Drollo, Nice89, Johan Agostini, Bongwick, Nadir Deba, Samuel Ferreira, Yang42, Villemagne et Christophe Bussière. Merci à vous tous et merci à tous ceux qui choisissent de soutenir l'émission.
Moi, je l'ai fait.
Je t'en remercie.
Je vais augmenter mon pledge en plus.
C'est vrai?
Mais oui, tu m'avais envoyé un message en me disant merci d'avoir augmenté.
Il y a l'épisode précédent. C'était un moment émouvant pour moi, effectivement.
Ah, tu parles.
Ah, d'ailleurs, il faut que je refasse mon abonnement Twitch et change de nom de procédé.
Ah, là, là.
Mon abonnement Twitch Prime sur Geek Inc. Enfin, sur Studio Renegan. Ça y est, c'est passé à Studio Renegan.
Ouais, ça y est. Ouais, c'est fait. On a eu tous les changements et tout. Maintenant, il nous manque à toucher l'argent, mais ça va.
Ça va arriver.
Ouais, on n'a pas touché d'argent depuis le mois de janvier, t'imagines?
Ouf.
Quand ça va tomber, ça va être le jackpot. Hein.
Ça va être la fête chez Renegade.
Ouais, c'est ça.
Bon, on passe aux news et rumeurs avec une news qui, je pense, te fait particulièrement plaisir. Toi qui as été un fervent défenseur de Windows mobile et Windows pendant de nombreuses années.
Là, j'ai re-switché, je suis à nouveau sur Windows.
Pas Windows Mobile.
Non.
Windows. Ah, d'accord, tu m'as fait peur. Mais oui, bah moi aussi, je suis sur Windows, j'aime beaucoup Windows 10,
remarque,
évidemment.
J'ai déterré mon Lumia 930. Mais juste comme ça pour le fun.
Ah oui, d'accord, oui, c'est ça. Je me disais, mais de quoi nous parle-t-il?
Non, j'ai un iPhone 10, sinon.
Va bien. Très bien. Justement, Windows 10, il y a une nouvelle mise à jour qui arrive. Elle a été un petit peu retardée, mais finalement, elle arrive au moment où vous entendez cette émission. Et normalement, elle sera en train d'être livrée et plus largement à tout le monde d'ici une ou deux semaines. Et elle amène des nouveautés dont ils avaient déjà parlé, c'est-à-dire Timeline, qui est la nouveauté principale, Focus Assist et un nouveau navigateur Edge qui permet de faire des choses comme par exemple muter un onglet, ce que la plupart des concurrents font depuis longtemps, mais c'est bien que ça arrive chez Edge aussi. Focus Assist, ça permet de se focaliser sur un truc qu'on est en train de faire sans être dérangé par les mises à jour, etc. Et puis Timeline, c'est la fonctionnalité la plus intéressante. Je ne sais pas si tu en as entendu parler. Est-ce que tu peux nous la décrire? C'est un gros truc quand même.
Ouf, ouais, alors Timeline, c'est assez bordélique hein, quand même à décrire. Mais en
c'est
gros...
un petit peu un historique de tout ce que tu as fait sur ton ordinateur, quoi.
C'est ça.
Auquel tu peux accéder à n'importe quel moment.
Voilà, appli par appli, depuis n'importe quel appli,
par document,
avec plusieurs bureaux, ouais, c'est ça. C'est un peu le time capsule, sauf qu'il n'y a pas cet aspect sauvegarde, mais en gros, ça ressemble aussi un peu au launcher que tu as sur Android ou maintenant sur l'iPhone, tu sais, avec ce système de cartes où tu as toutes tes applications et le dernier état dans lequel tu les as laissées. Mmh. Mais en même temps, tu as cet aspect où tu peux remonter dans le temps. Que tu n'as pas sur les téléphones. Alors, en fait, c'est difficile à décrire à l'oral.
Alors attends, on va voir si je vais réussir. Il y a un bouton qui est dédié dans la
c'est
barre
ça.
Des tâches. Quand on clique dessus, on a ce qui s'affiche, les applications qui sont ouvertes maintenant sur votre ordinateur. Mm-hmm. Et il y a une petite, un petit slider sur le côté.
Ça, tu remontes vraiment dans le temps.
Voilà, et on remonte dans le temps et on voit en fait par jour, donc plutôt aujourd'hui et puis hier, et etc., des petites cartes, qui représentent les applications qu'on a ouvertes à un moment dans la journée avec le contenu en preview, le contenu qui était dans cette application.
Alors, voilà, si c'est un document, ça remonte à 30 jours en arrière.
Voilà. Si c'était un document, si c'était un site web, etc., c'est indiqué, on l'a en thumbnail, en petite... qu'est-ce que c'est?
Aperçu.
Aperçu, merci. Et donc, on peut relancer l'application exactement là où elle en était, très facilement. Et là où c'est encore plus intéressant, c'est que c'est non pas par ordinateur, mais par compte. Donc, ça veut dire que si on se déplace d'un ordinateur à un autre, on peut très facilement reprendre le travail là où on en était, à condition qu'on ait le même logiciel installé, bien sûr. Mais on peut reprendre le travail là où on en était très facilement. C'est une fonctionnalité assez intéressante, je pense, surtout pour les gens qui ont plusieurs ordinateurs, mais même d'une manière générale, je pense que ça peut servir pas mal.
Moi, j'ai un peu peur sur le stockage de toutes ces infos en local, je parle. Hein, la place que ça va prendre sur le disque dur, parce que tu remontes à 30 jours en arrière sur cet aperçu-là. Alors, je ne sais pas si c'est l'état sauvegardé de l'app ou du document. Enfin, tu vois, j'ai
Moi,
un peu
pense
peur
que...
de ça.
Je pense pas qu'il va sauvegarder le document à différentes étapes, genre... ou si, peut-être, parce que...
Et c'est ça, parce que normalement, t'es censé pouvoir revenir sur le document que tu as utilisé...
Tel qu'il était il y a 15
jours. Dans sa version, il y a un mois, ça commence à faire, quoi, tu vois.
Si c'est un document Word, ça va.
Ça va, si c'est un montage document... vidéo...
Oui, non, bien sûr. Ensuite, il faut que chaque développeur adapte son logiciel à cette fonctionnalité. Donc, je pense que, tu vois, effectivement, Adobe ne va pas forcément mettre le truc en place pour Photoshop et Premiere... de manière à sauvegarder toutes les 10 minutes l'intégralité de tes
modifications. Après, il y a tous les petits raffinements d'interface aussi hein, qui sont prévus dans cette version-là. J'ai oublié le nom d'ailleurs de ce truc-là. Tu sais, où ils ont revu tous les effets de lumière, de fenêtres, de textures, de... Enfin, voilà.
Oui, dans les previews, je t'avoue que j'ai pas vu une énorme différence, hein, mais peut-être
non,
que c'est
des...
Ils
ont fait un petit refresh aussi de l'interface léger de Windows.
Ouais, il y a un petit peu plus de transparence, ce genre de choses, ouais.
Il y a des animations dans les fonds de mail, ce genre de trucs. Ouais, bon. c'est fait pour les yeux, quoi.
Voilà, mais bon, c'est une petite mise à jour qui sera bienvenue, et surtout avec cette fonctionnalité Timeline. On a des rumeurs sur le casque de réalité virtuelle et réalité augmentée d'Apple qui serait en développement pour une sortie en 2020. Il aurait deux écrans 8K et il se connecterait sans fil à une boîte dédiée qui serait donc dans la maison. Et il se connecterait sans fil, donc il serait plus léger parce qu'il n'aurait pas besoin d'embarquer ce qui fait les calculs. Mm-hmm. Mais du coup, forcément, il serait également lié à l'endroit où on branche la boîte correspondante. Et donc, il est il est beaucoup moins mobile. Mais c'est
un
des rumeurs,
casque,
hein, bien sûr.
Un casque VR, AR... aujourd'hui, tu les utilises chez toi, tu ne sors pas dans la rue avec. Après, c'est vrai que si on s'attend à un format lunettes, on aurait tendance à dire, ah, c'est dommage qu'on puisse pas l'utiliser en extérieur. Mais oui. Peut-être que la bonne surprise serait que il se connecte, par exemple, à ton iPhone qui a une puissance de calcul qui est autre. Et l'iPhone permettrait, pourquoi pas, d'interpréter ça, tu vois, dans une version entre guillemets allégée de ce que tu pourrais avoir à domicile. Mais ça pourrait être la solution. Et c'est vrai que jusqu'à présent, on a toujours pensé à des lunettes autonomes et tout ça, y compris pour les montres. Hein, si tu regardes les wearables, on parle d'Android Watch qui peuvent fonctionner sans téléphone, avec puce GSM dedans et tout ça. L'Apple Watch fonctionne dans une certaine mesure sans le téléphone, mais tout n'est pas disponible sans téléphone. Et du coup, on pourrait imaginer que leur système de VR AR, enfin leur lunettes, pourrait très bien fonctionner avec une norme sans fil connectée au téléphone. Et finalement, c'est que de l'affichage déporté, comme on a du son déporté aujourd'hui dans nos AirPods sur les lunettes. Ça serait pas complètement idiot.
Mais ça pourrait être un mode mobilité.
Un mode nomade,
il semblerait effectivement qu'il y ait principalement... oui, peut-être pour la V2. Que principalement, ça soit un mode non nomade. Mais t'as raison, en fait. Les casques de réalité virtuelle et de réalité augmentée qu'on connaît aujourd'hui, c'est pas des trucs forcément mobiles. On pense à ça parce qu'il y a le Oculus Go qui va arriver et les nouvelles versions qui seront peut-être un petit peu plus mobiles. Mais effectivement, là, on n'a pas forcément... c'est pas forcément l'idée pour un produit de ce type.
Complètement.
Et dans le contexte où on est de toute façon en train d'utiliser un objet de ce type dans sa maison, le fait de ne pas avoir de câble, même chez soi, c'est du coup hyper, hyper intéressant. Et donc, l'autonomie pourrait être un petit peu plus grande que si on avait les calculs qui étaient effectués sur l'appareil lui-même. Et donc, on peut imaginer que on le pose sur la table basse ou ce que c'est, et puis de temps en temps, on le met facilement sur soi, il est plus léger. Ça pourrait être effectivement une solution intéressante. À voir ensuite, bien sûr, il y a énormément de questions qui se posent avec ce casque, mais toutes ces questions se poseront de toute façon. Là, cet aspect du truc est quand même assez intéressant, quoi. Dans la futurologie encore, on a Huawei qui semblerait être en passe de dévoiler un téléphone pliable, un smartphone pliable. Alors, on parle des écrans pliables depuis très longtemps.
Ouais,
tu dis enfin, effectivement, c'est le moins qu'on puisse dire. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est le genre de fantasme qu'on a, parce que c'est genre cool et futuriste d'imaginer un téléphone pliable. Je ne suis pas certain que concrètement, ça serve à grand-chose. Peut-être que je me trompe, mais qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce qu'on a vraiment besoin d'avoir un téléphone pliable ?
En fait, c'est difficile de... Il faut voir comment c'est fait. Et surtout, le seul intérêt qu'on pourrait y trouver, ça serait pourquoi pas d'avoir un...
C'est d'étendre la taille de l'écran, quoi.
Ouais, c'est ça, c'est d'avoir un téléphone avec un format raisonnable pour l'utiliser en téléphone et pouvoir le déplier en deux pour, je sais pas, tout ce qui est, pourquoi pas, consommer de la vidéo ou taper du texte ou consulter des documents. En gros, une espèce d'iPad mini qui se plierait et
on
trouverait un format téléphone. Mais ça ferait des ratios d'écran un peu bizarres.
Mais le problème, du coup, c'est que en plus, ça voudrait dire qu'il faudrait qu'il se plie vers l'intérieur de l'écran, c'est-à-dire que l'écran soit toujours disponible des deux côtés quand
des
tu
deux
l'as
côtés,
plié.
Ouais.
Et puis, il faut voir
ça,
l'épaisseur
du truc. Ça, c'est pas très
grave,
parce que regarde, tu as un iPhone 10, toi, ou pas ?
Oui.
T'as un dos en verre, hein. Donc,
ouais,
imagine que
sûr,
c'est un écran
sûr,
qui est désactivé, il est tout noir. Bon,
Peut-être, effectivement. Ouais.
Si c'est un écran OLED, tu pourrais très bien imaginer qu'il y ait le logo Huawei derrière qui s'affiche tout seul, en fait, quand l'écran est replié. Tu vois, comme là, tu as le logo Apple. Imagine que c'est un écran, tu ouvres et à la place du logo, tu te retrouves avec l'affichage étendu.
Bien sûr.
Quoi, donc,
disons que si ça marche comme ça, effectivement, je peux comprendre. C'est-à-dire que si c'est mon téléphone d'aujourd'hui, sauf qu'en plus, tu peux le déplier et avoir deux fois plus de surface, oui, bien sûr. Ce que je crains, c'est que ça ne marche pas du tout ça. C'est qu'il soit plus épais, qu'il soit un petit peu... peut-être parce que la technologie est encore trop jeune, mais tu vois, qu'il soit plus épais, que les bords soient gros, que ça soit... je ne sais pas, que ça fasse un petit peu prototype encore. C'est l'image que j'ai. Mais peut-être que c'est parce que j'ai vu que des prototypes de trucs à écran pliable et Même quand j'y pense, oui, il y avait des câbles qui sortaient de partout, mais il y avait souvent genre un écran avec l'électronique au bout, mais le reste de l'écran était hyper
fin.
Oui,
tout à fait.
Donc, il n'y a pas de raison. Enfin, l'écran était vraiment une feuille, quoi. Et, ouais. Et donc, il n'y a pas de raison que ça ne soit pas possible à faire en écran fin, peut-être. Je ne sais pas, en téléphone fin. Mais bon, réponse peut-être, possiblement en novembre de chez Huawei. L'autre news des constructeurs chinois, je dis pas de bêtises, hein, Xiaomi c'est bien chinois. Chinois. Oui. Du coup maintenant, je m'étais trompé il y a quelques temps, j'avais dit que Foxconn était chinois, mais c'est pas du tout le cas, ils sont taïwanais.
Ouais, taïwanais, oui.
C'est ça. Donc maintenant, je m'assure de pas trop dire de bêtises.
Non, ça c'est une bonne nouvelle, je trouve.
Alors oui, justement, Xiaomi arrive en France, donc bonne nouvelle. C'est pour ceux qui connaissent pas Xiaomi, ils font quoi?
Alors en fait, Xiaomi, ils font d'excellents produits, et en particulier un des plus connus, ça a été le Mi Mix, qui était le premier téléphone borderless, on va dire, de la création, qui était designé par Stark avec la fameuse webcam narine, puisque la webcam était tout en bas, ils n'avaient pas adopté le notch, mais l'idée c'était qu'en gros...
narine pour... Parce que oui, ça filmait dans les narines.
Narines.
Quoi. C'est ça.
Voilà. Quand vous l'avez en face, la caméra est en bas, ça filme les narines, quoi. Et en fait, l'idée vraiment de ça, c'est que ce téléphone, en fait, avait trois côtés qui étaient vraiment que de l'écran. Et le bas de l'écran qui était un peu plus épais, puisqu'on avait mis à l'intérieur tous les capteurs divers et variés qui servent pour les écrans modernes de nos jours. C'est eux qui avaient fabriqué ça. C'est eux qui fabriquent aussi. Alors, ils ont toute une gamme. C'est assez incroyable. Ils ont toute une gamme de produits pour la maison, domotique et tout ça, qui sont très très bon marché. Ils ont des télévisions. En gros, ça me fait penser un peu au groupe LG ou Samsung, ces groupes qui vendent plein de choses. Et d'ailleurs, si je dis pas de bêtises, ils font même de l'alimentaire. Enfin, ils ont des produits pour la cuisine, qui d'ailleurs ont un nom très ragoûtant. Je crois que ça s'appelle pas Gerbe ou Vomi, ça s'appelle Volmi ou un truc comme ça. Et du coup, c'est vrai qu'en français, c'est comment dire, voilà.
Hein, oui. Bon, Volmi, ça va encore. Mais...
Je sais plus. Je crois que c'est Volmi. Viomi.
Ah, Viomi, d'accord.
Encore mieux. C'est ça. Des thermos, par exemple, des gourdes Viomi. C'est Xiaomi Viomi. Voilà. Un peu spécial. C'est eux qui font les fameuses trottinettes électriques aussi. Moi, j'ai envie d'en acheter une, mais ils font des versions aux normes européennes. Mais j'attendais qu'ils se lancent aussi chez nous, même si le prix sera sans doute plus élevé, mais ne serait-ce que pour la garantie. Bref, ils ont d'excellents produits. Très honnêtement, on les
très raisonnables,
souvent de copier Apple. On leur dit souvent ça parce que c'est vrai que même le CEO était à l'époque, je sais pas si c'est toujours le cas, habillé avec un jean et un col roulé noir, très Steve Jobs-like. Hein. Même toute leur communication ressemble beaucoup à ce que fait Apple, mais leurs produits sont très bons. Ils
c'était
ont une
Jack Ma,
TV
non
en particulier qui est top.
Non, mais non, Jack Ma, c'est Alibaba, je suis bête.
Non. C'était Hugo Barra, je crois, qui avait fini chez Xiaomi, justement, responsable des produits ou je sais plus quoi, pour finalement quitter pour des raisons personnelles la société. Hugo Barra, qui était un des papas d'Android, hein, avec Andy Rubin, ouais. Ça, il s'occupait de tout ça.
Bon, en gros, Xiaomi, c'est quand même essentiellement pour les téléphones qu'on va s'y intéresser aujourd'hui.
Bah alors nous, oui. Pour les téléphones et tous les gadgets autour du téléphone. C'est-à-dire
c'est
qu'ils
pas que
ont des accessoires
les téléphones,
ouais. Et des accessoires pour la télévision, par exemple. Mais bon, a priori, ils débarqueraient pas chez nous. Peut-être les box, on verra. Mais ils ont, ils ont des téléphones, ils ont des accessoires autour du mobile, des petites caméras, des trucs comme ça. Les trottinettes qui se vendent, moi j'en vois partout à Bordeaux de ces trottinettes là, c'est incroyable. Et ça fait partie des accès, elle est connectée au smartphone puisqu'on a des infos sur l'autonomie, on a quelques trucs comme ça dessus. Donc voilà, c'est ce genre de choses. Et effectivement, moi je les attends de pied ferme puisque leurs téléphones sont très très bons, sincèrement, ils sont très très bons.
Et donc ils arrivent le 22 mai en France. Donc
juste
voilà,
avant l'Amazon
avoir...
Echo.
Juste avant.
Et d'ailleurs, si tu regardes bien, ils ont des drones, ils ont des robots, ils ont des caméras, ils ont plein de trucs. Si vous allez sur la page Xiaomi France sur Facebook, vous le voyez d'ailleurs, ils ont une espèce de bannière où on voit dessus leurs oreillettes Bluetooth, leurs ampoules connectées, la trottinette d'ailleurs est sur la vignette et tout ça. Donc on voit un peu le genre de produits qui nous attendent. Ils ont des batteries aussi. Ils ont un design très soigné, j'allais dire... Apple-esque, mais c'est vraiment ça. Ils ont un design très très soigné et qui fait beaucoup penser aux produits Apple. La finition des produits est vraiment géniale. Donc voilà, très sincèrement, j'attends avec impatience que la boutique soit disponible.
Tu parlais de drones, il y a une initiative européenne qui est assez intéressante sur l'utilisation des drones qui a commencé il y a un moment mais qui passe dans une nouvelle phase et on n'en avait pas parlé donc on l'évoque maintenant. C'est un groupe d'études qui travaille avec DJI, le constructeur de drones bien connu, pour essayer de trouver des utilisations aux drones dans les situations d'urgence, dans les protocoles de réponse aux situations d'urgence. Alors, on pense évidemment à des situations comme des incendies, ce genre de choses.
Ouais.
Et alors que je retrouve le nom de l'instance européenne, voilà, c'est European Emergency Number Association, donc l'association de réponse d'urgence, enfin des numéros de réponse d'urgence européenne, qui travaille avec DJI et qui passe en phase d'implémentation pratique maintenant pour l'utilisation de ces drones. Et l'utilisation principale, comme je le disais, c'est avec les pompiers en cas d'incendie.
Oui, la surveillance. Mais moi, j'ai vu utiliser des drones à la plage. Je crois que c'est à Lacanau, je sais plus. Oui, je crois que c'est à Lacanau. Où un drone en fait est équipé d'une bouée et le drone se déplace beaucoup plus vite que n'importe qui en jet ski, en ce que tu veux, dans l'eau. Et quand une personne est en difficulté, le drone en fait va près de la personne et largue la bouée pour qu'elle puisse s'accrocher le temps que les secours arrivent en fait.
Ouais.
C'est bête, hein, mais c'est une utilisation des drones qui justement peut vraiment sauver des vies, quoi.
C'est ça, ouais. Et c'est pas donc les drones, c'est pas juste pour aller espionner votre voisin au-dessus de la haie.
C'est ça.
mais ce qui est hyper intéressant dans la manière dont ils font la chose, c'est que leur but aujourd'hui, c'est d'explorer les manières dont ça peut fonctionner et ensuite de faire des recommandations aux organes légaux. Aux gens qui vont faire les lois et aux gens qui vont entraîner ce qu'on appelle en anglais les first responders, les gens qui viennent pour répondre aux situations d'urgence. Et donc, ils vont faire des recommandations. Donc, c'est vraiment une question d'exploration des possibilités. Et ensuite, on aura des situations concrètes et des tests qui nous permettront d'écrire les lois et d'établir les protocoles et les processus en connaissance de cause. Donc, plutôt que de commencer à établir des lois pan-européennes ou même nationales sans vraiment avoir tester les choses. Bien sûr, c'est pas forcément comme ça que ça fonctionnerait, mais là, il y a une procédure qui est en cours pour faire les choses dans l'ordre. Et je trouve ça vraiment positif,
ouais.
Avec de nombreux exemples comme celui que tu as donné, ou c'est des utilisations auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. C'est que là, on va voir des groupes de pompiers, d'ambulanciers ou de, bah, comme tu le disais, peut-être même de lifeguards.
De secouristes.
Secouristes, oui, sur les plages ou ailleurs. Et leur dire, bon, comment on leur donne un drone et avec les gens de chez DJI, on leur dit comment vous pourriez utiliser ça. Et eux, ils vont tester, ils vont voir et forcément, ils auront des réponses auxquelles on n'aurait pas forcément pensé. Un autre truc auquel on n'aurait pas forcément pensé, c'est une vulnérabilité du processeur Tegra de NVIDIA qui fait la joie de nombreux joueurs, puisque c'est une vulnérabilité qui est impossible à patcher, mais qui permet d'ouvrir la porte vers un hack des consoles Nintendo Switch à l'avenir. Alors, ce n'est pas encore le cas. Il y a des moyens de le faire, mais enfin, c'est encore très, très, très...
Ah oui, moi, tu n'as pas vu les images de RetroArch installées avec toutes les ROM et tout ça. Enfin, ça commence.
Non, mais ce n'est pas encore possible, c'est ce que je veux dire. Enfin, c'est possible, mais il faut vraiment y aller en ligne de commande, etc. Il n'y a pas d'outil complet et facile à utiliser, mais
est-ce que tu as vu comment ils y sont arrivés, quand même?
Non, je n'ai pas suivi l'histoire.
En fait, en passant par la connectique des Joy-Con, en créant au moment du boot une espèce de bug. On en a parlé dans le dernier beat, d'ailleurs, qu'on a publié ce week-end, où on est rentré vraiment dans le détail de la technique, où en mettant un petit composant et en faisant un espèce de court-circuit, on arrivait en fait à accéder à la carte logique, à la carte mère, avant même la séquence de boot, et donc les vérifications par l'OS de l'intégrité du système. Et du coup, ça permet, avant le bootloader en fait.
D'accord.
Donc, ça permet justement d'accéder ensuite à la plateforme matérielle sans même charger l'OS de Nintendo. Donc, c'est assez incroyable. C'est assez incroyable.
Du coup, effectivement, la console qui est l'une des plus populaires du moment, on en a parlé dans l'émission et dans le rendez-vous jeu également, bien sûr. Mais le succès de Nintendo est absolument insolent. Cette année, enfin l'année dernière plutôt, avec le lancement de la Switch, ils en ont, je crois, 18 millions déjà dans la nature. Des profits qui ont augmenté de, je ne sais plus combien, 500% ou quelque chose d'absolument ridicule.
Alors qu'ils étaient censés être morts l'année d'avant, quoi.
C'est ça. Bon, il faut dire que l'année d'avant, les profits n'étaient effectivement pas au beau fixe, si on compte le succès de la Wii U. Et forcément, avec le lancement de la Switch, ça va mieux. Mais oui, malgré ça, le succès est totalement insolent. Et du coup, peut-être que tous les acheteurs de Switch pourront à un moment utiliser leur Switch pour d'autres choses. Ça va faire plaisir aux hackers. Bon, ensuite, s'il faut mettre un petit morceau de métal sur les connecteurs des Joy-Con, c'est peut-être un petit peu moins facile qu'on aurait pu l'espérer, mais il n'empêche.
Non, mais en plus, ils ont fait un truc imprimé. Enfin, c'est un truc de malade. Sincèrement, c'est un truc de malade.
Bon, on continuera à en parler si les choses se développent. Un autre développement, c'est TF1 et Free qui ont un petit peu... comment dire, vous connaissez cette image des chiens qui se grognent l'un sur l'autre sur Internet. Et puis finalement, quand ils se rencontrent vraiment, ils sont tout gentils et tout doux. Et ben, c'était un petit peu... TF1 et Free ces derniers temps, c'était genre Free qui faisait le qui se hérissait des demandes de TF1 de le payer pour diffuser ses contenus et qui disait non, on va couper, de toute façon rien à foutre de TF1 machin. Et bah finalement ils ont trouvé un accord, et visiblement un accord où TF1 obtient de l'argent de Free. Il reste plus que Canal+, mais à mon sens Canal+ va bientôt plier également. Donc TF1 aura eu gain de cause. Ils s'en tireront avec quelques millions d'euros par an pour être diffusés sur les box des FAI. Bon, alors on s'en doutait, hein, c'était uniquement c'était au moins en partie une posture de dire nous on défend nos abonnés et donc on veut pas que le prix se répercute sur l'abonnement, etc. Bon, c'était surtout des relations entre grandes sociétés qui ont des intérêts financiers. Mais voilà, la conclusion est en cours. Moi, ça me chagrine quand même un petit peu sur le principe que TF1 fasse payer le droit de diffuser ces chaînes qui sont accessibles normalement publiquement sur les ondes, là où l'infrastructure a tout de même été développée par les FAI. Mais bon, voilà, ensuite, c'est comme ça que ça se passe. Je ne vais pas non plus écraser trop de larmes sur Free et Canal+ et Orange, mais il n'empêche, ça me chagrine, on va dire.
Ouais. Mais t'as tout à fait raison, c'est pareil.
T'as chagriné aussi.
Ouais, non, enfin bah, c'est nul. Enfin, honnêtement, via le décodeur TNT intégré, on y a accès.
Ouais.
Je sais pas.
Bon, bref. Facebook, tiens, encore eux. Bon, il y aurait eu toute une série de news Facebook que je vous évite. Ouais. Hein. on se limite aux choses vraiment intéressantes. Et là, en l'occurrence, il y a un truc qui m'a paru assez intéressant sur la question de la psychologie des internautes. Puisque, vous le savez, Facebook a essayé de lutter contre les fake news depuis plusieurs mois. Pardon, depuis plusieurs mois maintenant. Et ils se sont rendus compte que le fait de signaler qu'un sujet était contesté avait un effet inverse, en fait. Ça ne faisait qu'animer les discussions et les énervements des internautes qui lisaient ces sujets. Et donc, aujourd'hui, ce qu'ils ont décidé de faire, c'est que plutôt que d'indiquer clairement ce sujet est contesté, entre guillemets, enfin, entre parenthèses, c'est possiblement une fake news, une information erronée, eh bien, ils ont décidé plutôt de déprioritiser ces sujets, donc ils décident de les montrer moins que les autres, et en plus, ils les montrent avec graphiquement, la mise à jour en question est plus petite. au lieu d'avoir une image qui prend la taille d'une image normale avec le titre de l'article en dessous, eh bien, on a juste le titre de l'article avec l'image en tout petit à côté. En gros, quand il y a une image, enfin un sujet qui est considéré comme fake news, on se souvient qu'ils ont des systèmes avec des vérificateurs tiers, hein, donc c'est pas uniquement eux qui se chargent de ça, c'est important à savoir, mais oui. Quand il y a une news qui est considérée, qui est flaguée comme fake news, plutôt que de dire « attention, cette news est contestée », ils décident plutôt de la passer un petit peu sous le tapis. Et c'est important à noter, c'est pas parce que Facebook a décidé on veut que les gens ne la voient pas trop, enfin si, mais ils le font parce que simplement le fait de la montrer en disant c'est contesté, au lieu que
ça attire les gens.
Ça attire les gens et ça la fait remonter en fait parce que les gens cliquent dessus, s'engueulent dans les commentaires, etc. Donc je sais pas, j'ai trouvé ça hyper intéressant au niveau de la psychologie de l'être humain. C'est un peu déprimant mais en même temps intéressant.
C'est vrai. Comme tu dis, c'est déprimant mais en même temps, voilà, c'est comme tous les interdits. C'est-à-dire qu'on sent que à partir du moment où une news, ça en le souffre, les gens vont se dire tiens, j'ai qu'un envie de savoir ce qui est contesté. Et en plus, comme c'est flagué et contesté, tu vas avoir ceux qui vont débarquer en disant c'est vraiment de la merde, vous racontez que de la merde et tout ça, et ceux qui vont arriver en disant non, mais on sait jamais.
On nous censure.
Voilà, c'est ça. Il y a peut-être une part de vérité, la terre est plate, tout ça.
non, mais exactement. Et ouais, c'est en fait effectivement un peu. Je sais pas. C'est inquiétant.
C'est comme les trucs interdits au moins de 18, et du coup, les gens disent « Ah, il y a peut-être quelque chose à voir. »
C'est ça, ouais. J'aimerais bien que la réalité soit différente, mais malheureusement,
mais non,
parfois...
Mais regarde
souvent,
en fait, c'est exactement le clickbait des vignettes YouTube, quoi.
Ouais, tout à fait.
Sauf que sur Facebook, le fait de rajouter un truc en disant « c'est contesté », imagine une vidéo YouTube où on te dirait « attention, elle est contestée », ferait un max d'audience, quoi, tu vois.
Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, tout à fait. Mais c'est... Enfin, oui, je suis... Je sais pas, c'est un petit peu... Bon, c'est intéressant, en tout cas. J'aimerais que ça soit pas le boulot de Facebook de faire ça. D'ailleurs, entre parenthèses, ils ont publié, il y a une petite semaine, la définition qu'ils utilisaient de l'incitation à la haine et comment ils décidaient d'agir sur ce qu'ils considéraient, eux, comme de l'incitation à la haine. Et d'un côté, on se dit, c'est un petit peu inquiétant que Facebook soit obligé de définir eux-mêmes ce qu'est l'incitation à la haine. Il faudrait que ça soit les lois et les tribunaux qui définissent ça. Mais évidemment, les lois et les tribunaux ne peuvent pas définir concrètement si chaque contenu qui est signalé est ou non de l'incitation à la haine. Et donc, c'est nous qui avons demandé à Facebook et aux autres d'être plus proactifs et de supprimer les contenus inacceptables. Donc forcément, par cascade, on leur demande de décider, eux, ce qui est acceptable ou pas. Au moins, là, ils le disent plus ou moins clairement. Mais c'est encore une fois une réflexion intéressante à se faire que, du coup, maintenant, Facebook a sa définition de l'incitation à la haine. C'est intéressant. Enfin, en même temps, la définition semble coller. Hein. C'est pas non plus que... Mais voilà. C'est dans ce monde que nous vivons. Autre élément du monde dans lequel nous vivons, alors je ne vais pas rentrer dans les détails de l'affaire criminelle, mais plutôt dans l'aspect technique de ce tueur, donc c'est un meurtrier, hein, c'est quelque chose de grave, qui a été trouvé par les enquêteurs en faisant...
Ça dépend, c'est quoi ta définition des choses graves, comme pour Facebook? Tu vois, c'est où est la limite, hein?
C'est sûr, oui. Bon, on va dire que meurtre, c'est possiblement...
Meurtre, tu le mets dans le grave.
Oui, moi, généralement, oui. L'un dans l'autre. Bon. Mais si c'est contesté, tu peux émettre un tag...
Pays, dans certains pays, c'est autorisé.
Peut-être. Mais tu peux mettre un tag, en fait, sur l'émission contestée par Cédric Bonnet, de manière à ce qu'on ait plus de...
Ah non, désolé, un meurtre, c'est pas du tout...
Et donc, ce qui s'est passé, c'est que les enquêteurs ont fait une recherche sur l'ADN qu'ils avaient retrouvé sur les scènes de crime, j'imagine, sur une base de données publique de séquençage ADN. C'est une société qui s'appelle GED Match, une société de généalogie qui met à disposition cette base de données gratuitement. Et ils ont... Alors, il faut savoir qu'il y a plusieurs sociétés qui font de l'analyse d'ADN. On pense notamment à 23andMe, qui est peut-être plus connu des auditeurs si vous écoutez des podcasts anglophones notamment. Mais là, ce n'est pas une société. C'est vraiment une... Enfin, ce n'est pas une société qui fait payer cet accès. C'est un site open source. En fait, je dis société depuis tout à l'heure, c'est un projet open source qui n'est pas du tout commercial. Donc, c'est un projet open source, c'est une base de données disponible gratuitement. Et c'est vraiment un truc roots, puisque c'est deux personnes qui font tourner la société qui gère la base de données open source. Et ils fonctionnent avec des donations PayPal. Donc, c'est quand on parle de l'internet qui permet de faire des trucs fous pour des moyens avec des moyens limités, on est vraiment dans ce cadre. Donc, les enquêteurs vont vers cette base de données disponible. Évidemment, ils trouvent pas la personne spécifiquement, mais ils ont réussi à faire des correspondances avec des familles et à isoler suffisamment le groupe génétique de la personne pour les aider à cibler le suspect spécifique qu'ils voulaient attraper. Et ils ont donc écarté certains suspects et focalisé sur d'autres grâce à ce ciblage ADN. Avec le point important que les gens qui ont rendu disponible leur ADN pour cette base de données, il y en a, je ne sais plus combien exactement, peut-être une centaine de milliers, quelques centaines de milliers, mais ce n'est pas comme si le père du suspect avait son ADN disponible. C'est vraiment des quelques centaines de milliers de personnes au hasard, et comme ça permet de créer des correspondances avec des groupes ou des groupes de familles, eh ben ils ont réussi à l'attraper. Et là, quand on dit en anglais « the cat is out of the bag », ça y est, c'est, on ne peut plus interdire ce genre de choses. C'est juste, la base de données est disponible et ces informations sont accessibles à peu près à n'importe qui aujourd'hui. Je suis sûr que la plupart des services de police ou des services de renseignement du monde entier ont téléchargé l'intégralité de la base de données immédiatement. Et voilà, maintenant, c'est comme une faille informatique qui permet de faire un hack, par exemple, une faille de sécurité. Une fois qu'elle est dans la nature, tout le monde y a accès. C'est à la fois inquiétant et en même temps, il n'y a plus rien à faire, c'est fait. Je ne sais pas trop quoi en penser de cette histoire, en fait. Je ne sais pas si toi, tu as un avis un peu plus tranché, mais...
Le souci que j'ai... Enfin, tu vois, c'est toujours pareil. C'est où est-ce qu'on place l'éthique et jusqu'où on est prêt à aller pour se protéger de ce genre de soucis. C'est vraiment l'idée de se dire qu'une base de... Parce que, tu vois, se dire qu'une base de données d'ADN est disponible comme ça en libre service avec... des infos plus que personnelles. Hein. L'ADN, c'est un truc que tu ne peux pas modifier comme ça.
C'est ta personne, quoi. Oui,
c'est ta personne, c'est toi. Oui. C'est ton identité la plus... Tu ne peux pas te cacher derrière un pseudo, tu vois. C'est vraiment toi, quoi. Savoir que ça, c'est public, ça m'embête un peu.
Alors, sachant encore
même si tu vas me dire « Ouais, mais j'ai rien à me reprocher
». Voilà. Je précise encore une fois, je l'ai déjà dit, mais je le reprécise, parce que ce sont des centaines de milliers de personnes qui ont donné leur ADN pour cette base de données volontairement. Mm-hmm. Et donc, c'est vraiment, on est dans un cas similaire à celui de Cambridge Analytica, où il y avait 150 000 personnes qui avaient répondu au quiz, mais comme les gens qui avaient accès aux réponses avaient aussi accès aux informations de leurs amis... depuis, ça a été patché par Facebook. Hein. Maintenant, les applications ne peuvent plus avoir accès aux informations des amis, des gens qui donnent accès aux informations. Mais c'était de la même manière. Il y avait 150 000 personnes qui ont répondu, ce qui a donné les informations de 60 millions de personnes. Là, sur 100 ou 150 000 personnes ou 200 000 personnes qui donnent leur ADN, sauf que là, on ne peut pas le patcher comme l'a fait Facebook et fermer l'accès. Ça donne des informations... 100% précise, mais quand même des informations sur toute leur pool ADN, quoi, sur les gens qui leur sont génétiquement liés. Donc, tu dis effectivement, il est possible qu'il y ait des informations sur, sur toi,
ça,
par exemple.
Pareil, entre quelles mains ça tombe. Mmh. Et là, le problème, c'est que vu que c'est dispo pour tout le monde,
Ouais. Mais c'est ça qui est
inquiétant, en fait, c'est tout.
c'est inquiétant et en même temps, bon, peut-être qu'il faut faire attention à ce genre de problème à l'avenir et régler et réguler plutôt, légiférer sur ce genre de sujet. Il y a évidemment très certainement des législations qui sont déjà en place pour la gestion des données très personnelles que sont l'ADN, mais là encore une fois, c'est pas vous qui allez donner c'est pas vos données spécifiquement qui sont concernées, c'est les données d'une personne qui choisit de les donner librement. Donc ouais. C'est très compliqué à gérer. Et puis surtout, moi j'ai l'impression qu'on sort à peine.
Peut-être que alors, tu les donnes librement. Ouais, après le problème c'est que tu donnes librement à quelque chose qui n'a pas de cadre dans son utilisation, en fait. C'est ça qui est...
Bah oui, oui, un petit
peu. Parce
que
moi,
oui.
Si je donne mon ADN pour... Je sais pas, imaginons que dans mon quartier, il y ait un problème et que quelqu'un... c'est le cas typique qu'on voit dans toutes les séries US où t'as quelqu'un qui... Enfin, une jeune fille qui malheureusement se fait violer et on demande de prendre l'ADN de tous les gens du coin. Mmh. Tu sais que ça sera pris que dans ce cadre-là et ça ne peut être utilisé que dans ce cadre-là, enfin, normalement. Et...
Mais oui, sauf que là... Sauf que là, c'était juste des gens qui l'ont donné librement et disent « Allez-y, on fait une base de données ouverte » qui, entre parenthèses, sont importantes pour des questions de recherche. On a besoin de ces données aussi pour la recherche. Et l'open source peut mener à des résultats hyper intéressants qu'on n'avait pas forcément imaginés à la base. Donc, je pense qu'à l'origine, c'est fait avec des intentions bonnes, comme les pavés qui pavent la route vers l'enfer. C'est ça, mais...
Je sais pas, je...
Ce que j'allais dire, c'est que ça va tellement vite, j'ai l'impression qu'on sort à peine du scandale Cambridge Analytica qui n'était ouais. pas évident à comprendre pour les législateurs, que déjà, on a là un problème qui n'est pas aussi, d'aussi grande ampleur, hein, mais qui potentiellement a autant, voire plus d'importance dans les années à venir. Et on sort à peine du truc de Cambridge Analytica que là, on a ce gros problème aussi qui se fait jour dans un domaine complètement différent. C'est, enfin, je n'envie pas les législateurs, quoi. C'est vraiment un boulot compliqué avec toute Exactement. Cette histoire de technologie. Bon, parlons un petit peu d'un truc dont on avait parlé également il y a un bon moment. C'était cette application YouTube Kids où on voyait des vidéos étranges. Alors, on en a parlé plein de fois, donc on va pas trop revenir dessus. Mais on précise que YouTube Kids pourra maintenant autoriser les parents qui utilisent l'application à ne rendre disponible dans l'application que des vidéos qui ont été sélectionnées à la main par des êtres humains. Et c'est hyper intéressant parce que ça se met un petit peu dans le cadre de cet algorithme dans lequel on a un peu perdu la foi, comme on le disait il y a deux épisodes, je crois. On se rend compte qu'il ne peut pas tout faire. Là, c'est vraiment Google qui baisse les bras, quoi, qui se dit « Ok, bon, dans certains cas, l'algorithme ne peut pas répondre à nos besoins, donc on va mettre une option pour ne montrer que du contenu sélectionné à la main qui n'est pas du contenu algorithmique. » Donc, à mon sens, c'est un moment important dans la vie de Google, quoi. Bon, c'est YouTube, mais c'est Google forcément. Google qui ne jure que par l'algorithme. Toi qui as des enfants, j'imagine que tu as eu ces problèmes régulièrement.
Pas tant que ça, parce que j'ai très très peur de YouTube pour mes enfants. Donc, je ne les ai jamais mis devant une playlist, tu vois, genre une playlist de dessins animés que j'aurais chopé sur YouTube. Parce qu'il y en a plein. Hein.
Même dans YouTube Kids
j'utilise pas YouTube Kids. Honnêtement, avec le dernier scandale, machin, j'ai tellement peur qu'une vidéo soit détournée ou un truc. Enfin.
Et du coup, tu leur montres que des vidéos que tu as choisies toi-même à la main, quoi.
Exactement. Si besoin, je leur montre que des vidéos que j'ai choisies moi-même à la main. Et pour les dessins animés, on utilise Netflix ou des plateformes comme ça de SVOD. Comme ça, je suis certain que le contenu ne sera pas mélangé avec autre chose. Et quand ils veulent écouter un morceau de musique ou quand ils veulent, je sais pas, une vidéo en particulier ou voir une bande-annonce d'un film qui sort au cinéma, je fais moi-même le visionnage avant... Je leur laisse pas en libre accès. Je sais pas pourquoi. J'ai très peur de YouTube.
Parce que tu connais la technologie.
C'est ça. Et je pense que ça m'embêterait vraiment qu'ils tombent sur des vidéos ou des propos ils proposent qui sont pas de leur âge, quoi, c'est tout.
Non, bah écoute, je pense que tu as répondu à notre à mon inquiétude et mon interrogation. Cette histoire d'algorithme, dans le cas des enfants en particulier, la réponse c'est que l'algorithme, ben c'est pas un parent, donc il vaut mieux que les parents soient des parents. C'est pourtant simple en fait.
On peut pas confier l'éducation de ses parents, de ses enfants à un algorithme, quoi. Bon, ses parents peut-être, mais ses enfants. Ils le font déjà avec Facebook, hein. Ils confient leur vie à un algorithme.
Bon, dernier sujet qu'on va couvrir très rapidement, c'est Google qui se lance à fond dans les podcasts avec une application podcast qui va arriver sur Android. Donc, les utilisateurs d'Android pourront avoir une application Google. À vrai dire, je pense que ça ne s'adresse pas forcément aux gens qui écoutent déjà des podcasts. C'est plutôt pour les gens qui ne connaissent pas les podcasts, qui ne vont plus avoir besoin d'aller télécharger une application tierce sur Android, comme c'était le cas aujourd'hui. Comme par exemple, au hasard, Podcast Addict, qui est une application de grande qualité sur Android. Il y en a d'autres, mais ceux-là, on les aime bien. En plus, ils sont sympas. Il est français, Xavier, tout ça. Donc, on l'aime bien. Mais il y aura une application sur Android dédiée au podcast, des améliorations sur les recherches de podcasts sur Google tout court qui seront implémentées également. Et on a également des informations sur la progression des podcasts chez Apple dans l'application iTunes et l'application podcast, avec des chiffres qui sont hyper impressionnants, comme par exemple le fait qu'il y ait eu de 50 milliards de téléchargements et diffusions en mars 2018 sur l'application podcast d'Apple. L'année dernière, on était à 13 milliards. Donc, on est passé de 13 à 50.
Rien que pour le rendez-vous tech, hein, vous imaginez.
Rien que pour le rendez-vous tech. Donc, c'est quand même impressionnant. Je ne pensais pas que vous étiez aussi nombreux. Ça me fait très, très plaisir. mais oui, donc, tout ça pour dire que les podcasts continuent à avoir le vent en poupe avec, visiblement, une accélération nette ces deux dernières années. Ce qui est, bien sûr, ce qui n'est que pour me plaire. Mais voilà, donc, les podcasts continuent à progresser et ça me fait forcément très plaisir. Voilà pour nos sujets et notre émission. On arrive au bout. Merci, Cédric, d'avoir été avec moi, d'avoir partagé ces quelques 7 heures et un petit peu. Tu as évoqué à quelques reprises les émissions de ton studio Renegade. Est-ce que tu peux dire aux auditeurs de quoi il s'agit?
En fait, j'ai arrêté Geeking et on a changé complètement notre façon de faire et on a tout misé sur Twitch. Tout misé sur Twitch et sur le direct. Alors il y a quand même des chaînes YouTube pour certaines émissions, si vous voulez voir des replays, ce genre de trucs. On finit fini le podcast, on a trouvé un moyen détourné d'autoriser les gens à s'inscrire, mais vous avez tout ça sur studiorenegade.fr. Mais on fait surtout du direct, parce que pour nous c'est l'échange qui compte, qui prime, l'échange en direct qui prime. Et vous êtes très nombreux à nous suivre, puisque rien que ce mois-ci, on a fait plus 300 nouveaux followers à la chaîne Twitch, même un peu plus encore, parce que j'ai regardé ça il y a 10 jours, donc ça doit être plus maintenant. Et donc, on a misé notre modèle économique donc sur Tipeee et sur les subs et la publicité sur Twitch. Et pour un premier mois, on a un premier bilan, puisqu'on est à dépasser un peu plus de 2000 et quelques euros de rentrée financière. Donc on est très content du lancement. C'était un pari pour nous d'abandonner les podcasts et du coup une grosse partie de l'audience, parce que voilà, nos audiences ont été divisées par quasiment 10.
Ouf.
Mais les revenus ont fait x2. Donc si j'avais su qu'en touchant 10 fois moins de personnes, je toucherais 2 fois plus, j'aurais fait il y a bien longtemps.
Si tu touches 100 fois moins de personnes, tu gagneras 4 fois plus.
C'est ça. Ne regardez plus, donnez juste votre argent. dans les faits, on est très content de tout ça, ça marche très bien. On est à notre premier mois. Là, on va commenter toutes les conférences en mai, puisqu'il y aura la Build, la Google I.O. Et puis, en juin, on aura la Conf Apple. D'ailleurs, tu es le bienvenu, Patrick, quand tu veux.
Hein. Ah, mais avec plaisir.
Les streams de jeux marchent bien, on a du monde, enfin, tout se passe bien. Les émissions aussi sont cool. Enfin, voilà, tout se passe bien. Donc, studiorenegade.fr pour en savoir plus.
Parfait.
Et là, on a lancé la matinale ce matin.
Ah, très très bien, j'ai vu la météo.
Ouais, ah oui, la météo de qualité, hein, tu vois, comme à la télé. Hein.
Pour ma part, c'est NotePatrick sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également... Tiens, d'ailleurs, je suis aussi sur Instagram, hein, NotePatrick, là-bas aussi. Vous retrouvez l'émission sur frenchspin.fr. Vous pouvez aller laisser des commentaires sur iTunes et sur tous les catalogues de podcasts que vous utilisez. Vous pouvez, bien sûr, laisser des notes, etc. Vous pouvez faire... Tiens, je vais vous lire un commentaire très simple, très facile. C'est Laurent Paris 13 qui dit « Informatif et agréable, 5 étoiles, merci Patrick ». Eh bien écoute, merci Laurent, ah ben, ça fait très plaisir. Ça. Voilà, 5 étoiles également de la part de Mérite qui dit « Excellent podcast avec des réflexions sur les technologies, très bien pour se faire sa propre opinion, etc. etc. » Merci à vous tous qui laissez des commentaires là-dessus. Merci à vous tous qui recommandez l'émission à vos amis, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans la vraie vie, au boulot ou entre, autour d'une petite pizza. Si vous sortez par exemple... Eh, hey, mais t'écoutes pas le rendez-vous tech. Le rendez-vous tech, c'est trop bien. Non, bon, je vais pas vous faire le script. On va juste dire que si vous avez des amis intéressés par la tech, qu'ils soient spécialistes ou non, justement, cette émission, c'est ce dont ils ont besoin pour comprendre ce monde un petit peu compliqué, très simplement en une heure, un petit peu plus d'une heure chaque semaine. Et bien sûr, si vous êtes vraiment satisfait par l'émission, si elle vous apporte quelque chose, des informations, un bon moment, eh bien, vous pouvez la soutenir financièrement sur patreon.com/rdvtech. Le lien est, comme toujours, dans les notes de l'émission. Ça prend 2 minutes pour s'inscrire et ça permet à l'émission d'exister. Donc, merci à tous ceux qui le font. Merci à tous ceux qui écoutent dans tous les cas. Et on vous donne rendez-vous dans une semaine pour le prochain épisode. Ciao à tous!